Bonjour à tous, c'est Jean-Christophe Drouet. Le golf prend une nouvelle dimension sur RMC. Toute l'année, la Dream Team sera présente tous les lundis pour commenter l'actualité de nos plus grands champions, nos plus grands tournois. Notre volonté, c'est de vous faire découvrir ce sport formidable, de vous donner envie de jouer, de regarder, de nous écouter, bien sûr, grâce à nos partenaires, U-Golf Blue Green et Callaway. Grâce à eux, nous pouvons tous jouer au golf. C'est la saison 3, épisode 10.
Le Practice RMC, Jean-Christophe Drouet.
Ah, quel bonheur de vous retrouver tous les lundis, comme d'habitude, en podcast, le Practice RMC. Bonjour à tous. L'épisode 10, aujourd'hui au programme, de nouvelles balles vont voir le jour en 2028 pour réduire la distance, notamment des drives chez les pros. Ça concerne aussi des amateurs. Êtes-vous pour ou contre? La question sera très simple. Le 19e trou de Simon Dutin, notre consultant RMC. Salut Simon.
Salut JC, salut tout le monde. Bonjour tout le monde.
Au 19e trou, j'ai ma petite sensation là. Tu vas faire quoi?
On va revenir sur quelques éditions mémorables. Bon, liste non exhaustive du Masters, évidemment, qui nous excite.
Et qui va débuter dans quelques jours.
Voilà.
Je vous demanderai votre prono. Forcément, il va falloir se mouiller un peu dans ce podcast. Le tips de Ramucho Artola, notre prof de golf. Salut Ramucho.
Salut JC, bonjour à tous.
Patron de l'enseignement du golf Blue Green de Pessac. À chaque épisode, tu viens en aide à nos auditeurs qui ont besoin d'un petit conseil. Tout va bien Ramucho aujourd'hui?
Jusqu'à présent, tout va bien.
Oui, en forme juste avant Augusta, là,
oui,
excité.
Oui, là, il me tarde.
Toi qui étais emballé par ce début de saison il y a une semaine, j'espère qu'on va se régaler, là.
Ah, j'espère que tout le monde sera au rendez-vous à Augusta. Ça,
c'est Fabien Donoyan, salut Fabien.
Salut JC, salut la team.
Directeur général.
Salut à tous.
Directeur général. Maintenant, il fait attention parce qu'il sait qu'il peut être imité à tout moment par Martin Coulon, directeur général adjoint et directeur de l'Académie. U-Golf et Blue Green, on va se régaler dans quelques jours.
Oh là là, quelle impatience. Ça va même plus que ça.
Ok, ton prono, je l'attends évidemment. Ce sera un petit peu plus tard dans ce podcast. Martin Coulon, salut Martin.
Salut la compagnie, comment ça va?
Ça va. À chaque fois qu'on te voit maintenant, on va avoir une imitation de Fabien
Oui,
Denoyant.
Mais je ne suis pas un jukebox. Hein. On met pas une pièce pour que ça marche. Ça vient quand je veux.
Ça viendra un jour.
Ça viendra peut-être à un moment n'importe quand, ça peut venir n'importe quand.
Ok, un peu de teasing, tu as raison, tu es un homme de médias. Médéric Coquer, salut Médéric.
Salut JC, bonjour tout le monde.
Responsable des opérations commerciales pour l'Europe du Sud chez Callaway. On est très heureux de t'avoir pour ce podcast, car évidemment nous allons parler des balles et tu y connais un rayon chez Callaway. Et puis notre invité aujourd'hui, il s'appelle François Simeka. Salut François.
Salut JC, salut tout le monde.
Rédacteur en chef de Golf Planet, le site de référence, on est très heureux de t'accueillir.
Merci de m'accueillir.
Tu connais les loustiques dans le studio?
La plupart, ouais, la plupart. Quelques-uns que je découvre, mais la plupart.
On se connaît
un petit peu, Martin.
Un
oui,
tout
c'est
petit
vrai.
Peu.
Bon, tu vas voir, ça chauffe un peu, mais c'est dans la bienveillance, hein, comme à chaque fois. Mon cher François, tu nous parleras d'un anniversaire, l'anniversaire de Golf Planet.
Oui, tout à fait, on a fêté nos 5 ans il y a peu, et c'est un moment émouvant pour nous, parce qu'on voit à quel point les gens nous suivent de plus en plus sur internet, sur l'application également. On a aussi des services à leur proposer, donc on est ravis de voir comment tout ça évolue.
Voilà, si vous voulez bien vous renseigner sur le golf, n'hésitez pas, il y a évidemment Golf Planet, un cadeau magnifique à vous faire gagner dans ce podcast. Je vais y arriver, sinon c'est du Vincent Moscato, je vous en parle un petit peu plus tard. Allez, tout de suite, c'est de la balle ou pas?
And that's where he's headed, just a little bit right of it, but this ball appears to be hammered.
Wow. So far up there, and no one's having more fun, Gary, than DeChambeau.
Look at that thing run down.
Good gracious, that's almost through the fairway at 12. This hole is 489 yards.
Et comme je dis toujours, quand c'est long, c'est trop long.
Le Practice RMC.
Début décembre, la nouvelle a fait beaucoup de bruit. Les instances du golf mondial ont annoncé la mise en place de nouvelles balles à partir de 2028 pour les professionnels afin de faire perdre jusqu'à 15 mètres au drive pour les meilleurs joueurs. Cette mesure intervient alors que ces dernières années, les drives de certaines stars, vous l'avez entendu dans cette production, sont de plus en plus longs grâce notamment à la nouvelle technologie, la technologie des clubs, ce qui rend les parcours plus faciles pour les joueurs pros. Il est difficile aujourd'hui d'agrandir les parcours de golf, même si on arrive sur quelques trous à faire quelques changements. Alors, décision a été prise, vous l'avez bien compris, de changer les balles. Cette innovation, et c'est important pour tous les auditeurs qui nous écoutent, sera mise en place à partir de 2030 pour les joueurs amateurs. Les nouvelles balles, pour ou contre? Simon Dutin.
A priori contre.
Ramucho Artola.
Pour cette réglementation.
Fabien Donoyan.
Connerie du siècle.
Martin Coulon.
Ça veut dire qu'il est contre et je suis d'accord avec Fabien pour une fois, t'imagines ?
C'est fou, tout arrive dans le practice RMC. Mais Derek Cocker ?
Bah moi, bien évidemment, je suis contre.
Ah, tu vas nous dire pourquoi, ça m'intéresse. François Simeka.
Moi, je fais partie des vieux cons, je suis pour.
Tu es pour, parfait. On a deux pour autour de la table. On va commencer avec un contre. Je vais commencer avec toi, Fabien, pour une fois, parce que tu me dis que c'est la connerie du siècle. Pourquoi ?
Mais clairement, c'est la connerie du siècle, mais pour plein de raisons. La première, de toute façon, ceux qui n'avancent pas, ils n'avanceront toujours pas avec cette balle-là.
Et pourquoi tu me regardes ?
Et ceux qui frappent fort, ils frapperont toujours fort. Déjà, donc on enfonce une porte ouverte, c'est n'importe quoi, et je laisserai Médéric parler des problèmes des manufacturiers. D'autre part, on n'arrête pas, depuis le début de saison, de dire les audiences TV, le manque de charisme, le ci, le là. Donc en fait, on va rendre notre sport qui attire les plus petits, les moyens et les plus anciens, parce que ça excite tout le monde. Toi, quand tu poses la question, tu dis « Ah, pourquoi ? J'aimerais bien la taper plus fort. » Ça excite les amateurs, ça excite les professionnels. Et aujourd'hui, de toute façon, un, le circuit mondial, deux, la technologie force tout le monde à taper plus loin. Et pour enlever 15 mètres, on enlèverait 40 mètres. Why not ? Ouais, mais c'est toujours dans la demi-mesure. On a l'impression que dans le golf mondial, quelles que soient les instances, USGA, Saint-Andrews, qu'il faut trouver un truc pour parler de soi, parler du golf. Donc c'est totalement débile, et moi j'aurais fait une balle qui envoyait 15 mètres plus loin pour les amateurs, évidemment, parce que c'est supra excitant d'envoyer la balle loin. Donc les mecs, réveillez-vous, laissez le golf aux professionnels, vous inquiétez pas, ça se passe plutôt bien, et pour les amateurs, rendez-les plus simples, beaucoup plus cool, et mettons des bombes, et donc créons une balle qui envoie la balle 15 mètres plus loin.
Il y en a beaucoup dans le studio qui te regardent avec les yeux de l'amour, hein, qui sont totalement d'accord avec toi, mais par Amucho Artola, pourquoi t'es pour ?
Je vais être d'accord au niveau des amateurs, mais pour le haut niveau, au niveau des pros, on s'éloigne dangereusement du jeu de golf. Vraiment. Non mais vraiment. Les compétences comme la stratégie, la précision, je suis désolé, ça fait partie de la panoplie d'un très bon joueur.
Mais c'est pour ça d'ailleurs que c'est fait, hein, cette réforme.
Du coup,
c'est pour le jeu de golf et pour apprécier les jeux de fer sur le deuxième coup et pas juste avoir 50 ou 60 mètres à taper. Attends, juste, vas-y.
Du coup, attendant, ça devient secondaire. Voilà. Donc moi, je suis tout à fait d'accord pour que l'on réduise le nombre de balles. Le nombre de distances.
L'angle de balle aussi.
Est-ce que je peux te poser une mini question ? Bah comment non ? C'est pas dans ton contrat.
Vas-y Fabien.
Là, le dernier joueur dans les trois dernières années, le plus charismatique, du golf mondial. Lequel ? Quel est le joueur pour toi qui a été le plus charismatique, dont on a le plus parlé sur le
terrain ? Je vois à qui tu fais allusion.
Bah, expliquez pour les auditeurs.
Bryson DeChambeau. Cas de différent Bryson DeChambeau, c'est que il tape la balle comme personne.
Donc il tape la balle, mais je ne veux pas que la performance. Moi, ce qui m'inquiète, c'est que la performance en golf repose maintenant sur uniquement et principalement la longueur.
Mais ça fait des années que c'est comme ça.
Non, pas du tout. Tu occultes.
C'est pas parce que ça fait des années que c'est bien.
Mais bien sûr que c'est bien.
Ça occulte les autres joueurs qui sont bons au petit jeu, etc. Mais les compétences ne sont plus aussi exigeantes qu'avant. Et en même temps, il y a une chose. Voilà, pour rester romantique, il y a une chose qui devient obsolète et secondaire, c'est les parcours. Les parcours, c'est quand même notre décorum. On a la chance d'avoir chaque semaine un nouveau parcours, d'accord ? Un nouveau parcours, d'accord ? Et ce parcours, il ne peut plus
un nouveau
combattre.
Parcours. Il joue depuis des années le tournoi toujours sur les mêmes parcours.
Non, jamais la vie. Chaque semaine, par rapport à notre sport, il y a un nouveau parcours. Donc ce parcours ne peut plus rendre les armes. Il rend les armes parce qu'il est moins long. Les bunkers qu'on ne carriait plus maintenant, il n'y a plus de soucis. Les lignes de jeu, ça devient débile. Donc le parcours...
Donc soit tu changes les parcours, soit tu changes les balles. Oui, c'est plus facile de changer les balles.
Le parcours, malheureusement, tu n'as pas systématiquement les rallonger. c'est pas possible de les rallonger.
Okay. François est d'accord avec toi. François Simeka de Golf Planet. Pourquoi ?
Ben oui, moi je trouve, la semaine dernière, je crois que vous faisiez un débat sur le fait que les joueurs du PGA Tour, il y avait de moins en moins de grands joueurs, ils ne sont pas au rendez-vous, ils ont du mal à gagner des tournois contre des joueurs entre guillemets anonymes ou un peu moins charismatiques, comme vous utilisez souvent le mot. Je le reprends. Là, avec cette balle-là, moi j'ai l'impression, cette balle bridée, j'ai l'impression qu'on va faire la distinction entre les joueurs moyens et les joueurs un peu plus habiles, un peu plus performants. Et je pense que ça va amener un petit peu plus de sel aux compétitions.
Martin Coulon.
Ouais, en fait, ce qui m'embête beaucoup avec cette histoire de nouvelle balle,
c'est l'argent.
C'est pas l'argent, non. Pas tant que, pour une fois, pas tant. Non, c'est le fait qu'on s'attaque uniquement à une notion de distance. C'est-à-dire que la balle va trop loin. Le
harnais. Il y aura spin. Il y aura du spin aussi en moins.
Ouais,
ou 3, en plus.
300
je sais plus. Je sais
pas. Parce que du spin en moins, elle va aller plus loin. Hein.
Non.
Ce que je trouverais intéressant dans une balle un poil différente et uniquement pour les joueurs professionnels, ça c'est hyper important à mon sens. Si tu veux faire une balle qui va moins loin ou quoi. Okay, si tu remets une balle qui est obligée de prendre des effets, donc il prend beaucoup plus de spin, pas 300 ou 500 tours minute ou 500 tours seconde comme c'est le cas, c'est limite à la marge en fait ce que cherche à faire le RNA en termes de gains de spin et donc de perte.
Oui,
de
vous avez raison et Fabien l'a très bien dit.
Oui, vous voyez moi monsieur.
Non mais vous avez raison, les contre cette réforme, je pense que vous l'avez très bien dit. La demi-mesure du RNA et du SGA, on aurait dû faire comme dit Fabien, 40 mètres de moins.
Mais au-delà de la distance, c'est vraiment cette notion, tu remets du shot making dans la balle. Tu remets du shot, le golf aujourd'hui,
c'est ça qui est dommage. Et les amateurs, ils partent d'un tee avancé, c'est pas très grave si
ouais,
ça pose
ouais.
un problème.
Non,
voilà,
les gars, on a l'impression que vous connaissez pas ce qu'on a vécu en 1983. Ouais, pardon.
Vas-y la Bible, dis-nous.
On a changé de balle. On a changé de balle.
Ah oui, la big ball ou la small
ball. Non, il y avait la petite balle,
ouais, c'est ça. La grosse balle.
Et vous m'expliquez, ça a fait quoi le golf quand on a changé de balle ? On a changé cette balle parce qu'elle allait trop loin. Expliquez-moi juste ce qui s'est passé derrière. On a tapé plus fort, on a tapé plus loin. Donc c'est du bullshit, c'est du marketing à deux balles. C'est n'importe quoi.
Ok.
J'en ai la preuve vivante.
Je vais te redonner la main, Martin Coulon. Vous allez pouvoir de nouveau argumenter. Médéric Coquer, manufacturier, quand même, chez Callaway, ça change beaucoup de choses de changer les balles. On imagine. Dis-nous pourquoi tu es contre.
Bah, en fait, je reprends ce que disait Fabien. C'est trop peu. C'est qu'aujourd'hui, on parle de 11 à 13 mètres chez les plus gros frappeurs du tour. Si je vous donne 2-3 infos purement techniques. En gros, aujourd'hui, maximum distance, c'est 290 mètres carrés quand un joueur swing à 120 miles à l'heure. Avec une balle qui sort à 176 mph, 2520 tours de spin et un angle de décollage de 10 degrés. Okay, plus la vitesse du swing va être faible, plus cet écart de distance va être réduit. Si on prend les datas des joueuses du LPGA et du LET, on parle de 5 à 6 mètres de moins au drive. C'est-à-dire plus on va se rapprocher des petits fers, moins il y aura de perte de distance. Donc aujourd'hui, c'est changer quelque chose, changer une industrie globale, mondiale, pour au final pas perdre grand-chose, sachant que cette histoire de spin, 300 tours au drive, qu'on va arriver sur un coup de sand wedge ou un coup de fer 8, fer 7, ça va être anodin. Donc on parle juste de ce qui va se passer à la mise en jeu, en fait. Parce que la distance derrière sur un coup de fer ou sur un sand wedge, ça sera ridicule. Et je pense très sincèrement qu'on peut changer tout ça par des greens plus rapides, par des fairways un peu plus étroits, par des roughs un peu plus hauts.
Évidemment.
Clairement.
Simon Dutin, t'as pas encore parlé.
Moi, je rejoins pas mal de choses qui ont été dites, et notamment Médéric. Ce par quoi commençait Fabien, soit tu vraiment fais une révolution, mais 10-15 mètres, ça va quoi ? Ça va changer un club pour les joueurs. C'est, même si on sait à quel point c'est fondamental, donner la primauté à la mise en jeu, considérer que ce jeu, ça ne se gagne que par une mise en jeu bien longue. Regarde les difficultés qu'a un Rory à gagner ces dernières années, alors que pourtant personne secoue la balle comme lui. Je reste persuadé que les grands événements, les grands tournois, c'est sur le green que ça se gagne et au putting que ça se gagne. Ça donnera pas beaucoup, ça changera pas la façon d'aborder les choses à 100-150 mètres du green. Donc je comprends pas, tu vois, on n'a pas rallongé. C'est la théorie de l'évolution. Les mecs en athlétisme, ils courent plus vite qu'il y a 50 ans. On n'a pas rallongé les pistes de 100 mètres pour autant. Je sais qu'il y a une évolution du matériel qui rend les choses
Le tennis, par exemple.
Oui, on fait des raquettes plus légères, mais même si tu veux, le ballon de football, il a évolué. Mais je ne vois pas pourquoi on s'obligerait à... Je ne vois pas quelle est l'urgence, finalement. Bon, quand tu vois la taille que va atteindre, je ne sais pas, c'est le numéro 2, là, Augusta, je crois que ça va faire 585 yards pour un par 5. Bon, ça ne va pas changer la façon de l'aborder. Ok, tu auras peut-être souvent un avantage si tu fais 20-30 mètres de plus que ton adversaire.
C'est pas une solution,
sur la
ça.
Mise en jeu.
C'est pas une non, solution. Mais, après, c'est une aberration écologique. À chaque fois, tu dois reculer les départs.
Alors là, justement,
voies,
ça, c'est un argument que j'entends à notre époque voilà. Que tu ne peux pas cacher sous la table le côté. Tu rallonges les parcours, ça fait plus d'eau à utiliser pour les entretiens, tout ça. Je pense qu'il y avait en effet d'autres solutions. Il y a tellement de tournois, notamment sur le PGA, qui se gagnent à 15, 20 en dessous du par. Je pense qu'il y a, moyen de complexifier
les parcours sans les rallonger.
Bah exactement, tu fais des roughs impossibles à jouer, fais des greens encore plus rapides et il y avait d'autres solutions avant de changer les balles. Mais Derek, j'en profite, hein, si tu as quelques invendus, nous on récupère, hein, moi je continuerai à jouer avec. Hein.
Voilà, évidemment, on gratte un petit peu.
Il reste quelques années.
T'as bien raison. C'est ce que dit d'ailleurs les instances, hein, dans un communiqué, c'était en décembre, les parcours de golf plus longs nécessitent des ressources supplémentaires en eau, il faut déplacer, rénover les tees, les bunkers. Il existe d'autres impacts à long terme identifiés en raison de l'augmentation de la distance. Donc on change les balles plutôt que de changer les parcours.
Mais c'est là où le RNA, enfin toutes les instances dirigeantes on nous ont joué le robinet d'eau tiède, parce que si tu veux partir sur ce terrain-là en se disant, c'est ce qui est le cas, c'est une aberration de se dire qu'il faut rallonger les tirs, refaire des c'est n'importe quoi. Enfin, aujourd'hui, en 2024, dans le monde dans lequel on vit, ça va être un petit peu compliqué de faire ça tous les ans. Et moi, ça me rend dingue, en particulier avec Augusta qui arrive, de voir ce parcours-là mythique être obligé de pousser les bordures, d'acheter des bouts de terrain à côté. Bon, ça, ils n'ont pas de problème parce qu'ils ont de l'argent, mais ça devient ridicule. Et le parcours d'Augusta, comme moi je l'ai connu à mes débuts du golf et aujourd'hui, ça, c'est plus vraiment le même. Bref, je me demande si le vrai sujet, c'est pas au-delà de la balle, c'est le matos au sens large du terme, et en particulier le driver, parce qu'on là, on parle de longueur, on parle de facilité de jeu, mais la grosse qualité qu'avaient les professionnels quand moi j'ai commencé le golf, c'était de la prendre entre les quatre vis. La prendre entre les quatre vis, ça voulait dire vraiment la prendre au centre de la face, on est d'accord.
Tu parles du persimmon.
Du persimmon.
les drivers Callaway. Médéric, il est pour changer les drivers Callaway. Je suis pas sûr non plus.
Non, c'est sûr, mais parce que pour les... Pardon, Médéric.
L'évolution du matériel, très objectivement, et je pense que Ramucho et Fabien le voient sur leur côté enseignement, il aide vraiment principalement le nouveau golfeur, le débutant qui, même sur un coup un peu excentré, va prendre du plaisir, va apporter de la tolérance, un peu plus de vitesse, la balle va mieux voler. Objectivement, quand on voit ce que les joueurs du tour ont dans le sac, qui ont des têtes de fer, qui sont des lames, ce qu'on appelle les muscle back, ils ont les mêmes têtes. Potentiellement, oui, il y a quelques... joueurs qui frappent moins fort, qui vont prendre une tête plus confort sur les longs fers. Mais pour la plupart, ils jouent des lames. Et donc, sur les fers, l'écart, il n'est pas si important que ça.
Donc, il faut le dire quand même, Médéric, je m'appuie sur toi. Il y a maintenant, dans les nouvelles têtes de club, et je parle des drivers, on fait jouer l'intelligence artificielle. Donc, c'est-à-dire qu'on recherche au maximum, on va dire, le côté ludique pour le joueur amateur. Il y a évidemment ce côté distance, mais quand on est amateur, il y a ce côté tolérance, non ?
Oui, clairement. Clairement, c'est ce qu'on recherche en fait. C'est pas de taper la balle. De toute façon, on a des réglementations. Aujourd'hui, ce qu'on appelait le coefficient de restitution, le corps pendant longtemps, maintenant ça s'appelle le CT, le Characteristic Time. La balle peut pas aller sortir plus vite qu'une vitesse, un peu ce qui va se passer sur la balle. Mais c'est surtout aujourd'hui être capable de donner des data identiques sur un coup excentré par rapport à un coup centré. Et aujourd'hui, les meilleurs joueurs du monde ont très peu de problèmes d'excentrage au niveau de la frappe. Donc là-dessus, c'est vraiment pour le consommateur, pour notre golfeur du quotidien.
Qu'est-ce que ça change pour toi, Médéric, concrètement, si en 2028, cette réforme passe, qu'il y a des nouvelles balles pour les professionnels, ensuite en 2030 pour les amateurs, qu'est-ce que concrètement ça change pour une marque comme Callaway ?
Bah, t'es obligé de. On commence déjà à travailler sur la partie recherche et développement parce que ce n'est que ça. C'est être capable aujourd'hui, et c'est déjà hyper complexe de construire une balle de golf. Aujourd'hui, on a quelques manufacturiers sur la place et effectivement on démarre déjà à investir des millions et des millions de dollars dans la recherche pour justement arriver à ça. Donc à part nous faire dépenser beaucoup d'argent, ça va changer juste ça pour nous. Après, il va falloir répondre à ces besoins de à ses besoins de réglementation. Mais oui, c'est beaucoup d'argent et beaucoup d'investissements à venir.
François Simeka.
Mais Derek, moi j'ai lu que la position de Callaway n'était pas aussi tranchée que celle de Titleist, par exemple, qui avait dit qu'ils étaient complètement contre. Vous, chez Callaway, visiblement, vous êtes pour une bifurcation. Est-ce qu'il va y avoir une bifurcation entre joueurs pro et joueurs amateurs ? Au baseball, on sait que les joueurs pro, ils jouent une batte en bois. Et les joueurs amateurs ont le droit de jouer une batte en aluminium. Est-ce que ça va être le cas avec la balle bridée ?
Bah, en fait, aujourd'hui, c'est déjà un petit peu ce qui se passe. Il faut savoir que les joueurs du Tour utilisent un produit qu'on trouve dans le commerce, mais effectivement, parfois avec un peu d'avance, avec des prototypes. Et donc, on se sert de ce que les joueurs du Tour vont nous redire en termes de sensations, de performance. On se base réellement sur ce qu'eux peuvent nous dire. Donc, je pense qu'on aura effectivement la capacité d'avoir des produits différents et effectivement avoir une balle sûrement pour le grand public, une balle pour les joueurs du Tour. Mais on devra répondre bien évidemment des deux côtés aux besoins de la réglementation de l'USGA et du RNA. Donc ça va être beaucoup de temps à travailler sur tout ça.
Oui, et puis pour un manufacturier, tu dois faire maintenant les balles pour les professionnels, oui, les balles pour les amateurs, même si aujourd'hui ça existe quand même, parce qu'il y a des balles très performantes qui sont pour les professionnels.
Alors justement, moi c'est une question que je me pose en tant que Golfix. Il y a quand même des modèles de balles qui sont faits pour la distance, des modèles qui sont pour le contact, soft, machin. Non mais est-ce qu'il n'y a pas déjà des balles sur le marché qui seront dans les standards des nouvelles règles?
30%.
Ah,
30% des balles aujourd'hui sur le marché répondent à ces nouvelles normes. Voilà.
D'accord.
Médéric ?
Non, en fait, ouais, c'est là où après on pourra en parler des heures, mais c'est vrai qu'aujourd'hui on a différents modèles de balles sur le marché, différents matériaux, différentes compressions, et c'est ce qu'on essaye effectivement d'expliquer nous en tant que fabricants sur le terrain au quotidien, que la balle qui est jouée par Jon Rahm ou par Xander Schauffele n'est pas celle de Monsieur Tout le Monde, et qu'effectivement on a une balle adaptée à une vitesse de swing bien spécifique, à un niveau de jeu, une volonté d'effets latéraux, une volonté de quantité de spin, de douceur. Et donc aujourd'hui, on a 4, 5, 6, 7 modèles de balles différents pour répondre à tout ça. Donc déjà, on a déjà ça qui existe. Et donc des balles qui, de toute manière, ne seront pas adaptées aux meilleurs joueurs, mais qui conviennent à ces swings plus lents et qui, je pense, comme le disait François, sont déjà plus ou moins adaptées à la réglementation.
Martin Coulon.
Donc je pense que les joueurs avec les vitesses les plus lentes aujourd'hui seront beaucoup moins embêtés par cette réglementation.
Ok.
Moi, quelque part, le seul truc qui me ferait dire OK à ce genre de rollback, comme on dit outre-Quiévrin, c'est le fait vraiment de se dire qu'il y aura la balle des pros et même aussi le matos des pros, mais au sens driver du terme. Parce que si on s'attaque à cette notion de longueur uniquement, tu vas jusqu'au bout de la débilité, quoi. Et si tu veux tuer ton sport au sens large du terme, tu fais ça pour tout le monde.
Donc on est d'accord avec
ça. Là, on est tous d'accord. Il faut qu'il y ait une bifurcation. Tu peux pas imposer à des joueurs amateurs de revenir en arrière aussi de façon aussi sèche,
abrupt,
pas possible.
Ouais.
Non, mais de toute façon, aujourd'hui, enfin, sauf ton respect, JC, tu pourrais pas taper le drive que je tape.
Ouais, c'est une certitude. Ouais.
Mais non, mais c'est pas, il y a aucune offense
là-dedans. Mais je le prends pas comme tel.
Il y a une histoire de vitesse, il y a une histoire de. Et encore une fois, je à part mettre les manufacturiers un peu dans le
la mouise,
caca, merci. Ouais. Mais je ne suis pas certain, c'est la question que je voulais poser. Et tout le monde n'est pas d'accord, donc ce n'est pas totalement tranché cette histoire.
Bah, tout le monde n'est pas d'accord, oui.
Non mais l'USGA n'est pas d'accord.
On n'est pas d'accord.
Ils ont décidé
ils ont décidé de retravailler un petit peu ensemble. Il va peut-être y avoir des aménagements à cette nouvelle règle, mais elle va voir le jour en 2028, c'est sûr. En 2030, pour les amateurs, je ne sais pas encore. Voilà.
Mais moi, si on parle, parce qu'on est d'accord avec le constat, si c'est de dire qu'aujourd'hui, avec la technologie, la biomécanique aussi des joueurs, quand Tiger Woods il est arrivé sur le circuit, il a révolutionné ce sport par la façon de taper la balle, par sa préparation d'athlète de haut niveau. Donc bon, voilà. Donc forcément, ça va être amené avec, on imagine, avec le temps, à s'améliorer. Tout ça, notre biomécanique, notre façon de voir ce sport, notre façon de s'entraîner, notre façon, bref. Donc ça va plus loin. Okay. Qu'est-ce qu'on fait ? On joue sur les balles, comme veulent faire les instances. On joue sur le parcours, mais si les parcours, on ne peut pas les allonger, qu'est-ce qu'on fait ? On rajoute du rough, on réduit les fairways, parce que c'est une possibilité. C'est ce que disait, je crois, Simon tout à l'heure, ou Martin. Est-ce que ça, c'est...
Mais oui, ça existe déjà. On a un gros tournoi qui est un majeur, qui s'appelle l'US Open, et que, historiquement, mais depuis peut-être toujours, et décider que ça soit le parcours le plus difficile, c'est-à-dire avec des fairways rétrécis, des roughs importants, hyper denses, avec des greens, mais c'est du carrelage.
Il y a l'US Open aussi, on dit souvent que l'US Open, justement.
Non, je parlais de l'US Open, et je vais vous raconter une anecdote.
Tu parlais du British.
Non, je vais vous raconter une anecdote. Moi, j'ai suivi en 2019 de mémoire à Torrey Pines, Paul Barjon, puisqu'on était un de ses sponsors, quand Yann Rahm a gagné US Open. Paul m'expliquait qu'il connaissait bien le parcours, qu'il avait l'impression de ne pas jouer du tout, mais du tout le même golf. Il me disait à chaque fois, si t'es pas du bon côté, si t'es dans le rough, t'es pendu, tu vas chercher ton par au mieux et tu passes au suivant. Quand t'es sur le fairway, si tu joues pas du bon côté, t'es pendu aussi, parce que ou t'as un putt, t'es surprend trois putts, ou de toute façon, tu peux pas sortir, ni avec le Bernier. Donc, clairement, et pourtant, c'est 2019, donc on allait déjà très loin, on durcit le parcours.
On peut pas faire ça partout. Comment on joue le mythique The Open à Saint-Andrews? Comment tu le joues? Comment tu fais? Tu vas mettre des roughs comme ça à Saint-Andrews? Non.
Et Saint-Andrews, c'est plus jouable du tout.
Bah, ouais, mais alors Saint-Andrews, c'est quand même... pardon, je t'ai coupé, mais c'est quand même un petit peu particulier. Déjà... Ça dépend de la météo.
Tous les 5 ans.
Non, mais ça dépend de la météo. On a quand même connu le dernier gagné par Zach. C'est le même parcours. C'est pas si vieux. Zach Johnson, pardon. Et c'était difficile parce que la météo était difficile. C'est sûr que si tu joues Saint-Andrews sans vent, hyper sec et avec plein soleil... Et comme on l'a joué dernièrement, c'est pas le même parcours.
Et puis, il n'est pas inenvisageable d'accepter qu'une fois de temps en temps, le gars qui mettra 30 mètres de plus que tout le monde au drive est un certain avantage.
Mais il le mettra toujours.
Ils conserveront de toute façon. Tu as raison, François. Les plus gros frappeurs conserveront un avantage avec ces nouvelles balles. Mais la direction, j'en reviens. Pourquoi ne pas jouer et alors réorganiser un peu le tour? Mais ça, il faut aller l'expliquer aux mecs notamment du PGA, sur des parcours plus sélectifs qui rendent la plus compliqué aux joueurs, parce que le golf ça reste quand même ça, reste comme disait Fabien, se mettre au bon endroit et parfois jouer plus sécure et t'as envie de, au lieu de
on a un exemple chez nous Fabien. Qui est le golf national. Golf national, expliquez-moi le nombre de fois où ça a été gagné en moins 25, moins 22, et je peux vous assurer que c'est un parcours pour ce genre de joueur qui est très court, vraiment court.
Bien sûr.
Et pourtant, comme il est préparé, dans sa difficulté, parfois la météo, c'est un parcours qui est ultra exigeant. Et si vous voulez, on en parle aux Ricains qui sont venus perdre la Ryder Cup parce que ce parcours leur convenait pas.
Sûr.
Ça veut dire qu'on peut fabriquer des parcours difficiles, même en France.
Ok, même court. Enfin, en tout cas, pas des parcours les plus longs du monde.
Merci Fabien de mettre de l'eau au moulin. Ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que le parcours, ses caractéristiques, ses particularités, ses difficultés, elles sont de nos jours occultées par les longueurs excessives de nos joueurs. Et si la technologie avance, et bien effectivement, ça va devenir vraiment boring.
Et ben on fait le même constat. On peut garder la technologie, on peut garder les balles, mais si on met un parcours plus difficile, plus préparé, tout le monde est content.
Voilà.
Il y a un truc qu'on fait déjà au statut amateur. Hein.
C'est vrai.
Avec les grands prix, quand on joue des parcours, le parcours qu'on peut jouer tous les jours en tant que membre, dès qu'il y a un grand prix, les roughs sont surélevés, on a des greens beaucoup plus rapides, des départs qui sont peut-être positionnés différemment, avec des angles de jeu différents. Donc je ne suis même pas sûr qu'on ait besoin d'entrer dans ce débat d'allonger les parcours. Juste en modifiant très légèrement le tracé par des roughs plus hauts, par des greens plus rapides, on a déjà des parcours
qui peuvent être bien plus compétitifs. Et qu'est-ce qu'on fait des obstacles? Voilà. Qu'est-ce qu'on fait des bunkers?
On change justement parfois les lignes de jeu. Il ne suffit de pas faire plus de distance.
Donc il faut reculer.
Non, pas forcément. J'ai eu le cas récemment j'ai joué le parcours à La Reserva en Espagne. Il y a le par 3 qui doit être le 5. Il y a deux départs différents à la même distance. Et il y a deux attaques, deux sens de jeu complètement différents sur le trou. Et donc, à une position de drapeau identique, on peut avoir joué le samedi et joué le dimanche et avoir deux attaques complètement différentes. Et un coup à 130 mètres peut être à la fois facile un jour et le lendemain vraiment beaucoup plus compliqué. Et il suffit qu'il y ait effectivement le vent qui tourne. Donc, je pense que On peut trouver des solutions qui nous évitent de rallonger ces parcours, en tout cas.
Après, il n'arrive pas à convaincre François sur cette idée-là.
Ah non, moi, je viens de voir, la semaine dernière, on a vu le Houston Open, il y avait un par 5 de 625 yards, 572 mètres, un par 4 de 525 yards, ouais, 480 mètres.
Non, mais c'est faux, François. Tu sais, comme moi, tu connais les tournois. Déjà, ils ne sont pas partis du fond, donc ils impressionnent. Mais déjà, quand tu regardes le tournoi, ils ne sont à aucun moment... Enfin, 3 jours sur 4, ils ne sont pas partis du... Ils sont, je vais y arriver, pardon.
3 jours sur 4, du... mais un jour sur 4, ils le sont.
Voilà. Et alors, mais c'est fantastique. C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est...
Enfin, mais regarde, pas tous les parcours peuvent faire ça.
Non, mais tu parles du Houston. Non, mais ils ne l'ont pas changé. Tu parles du Houston Open. Enfin, je veux dire, c'est quand même super sympa, les 3 derniers trous. Tu as un par 4, tu prends le risque de pouvoir driver. Tu as un par 5, si tu veux le choper en 2 avec une petite canne pour aller chercher l'eagle, tu es obligé quand même de flirter avec l'obstacle. Enfin, c'est quand même passionnant, non,
mais
malgré
c'est nouveau,
tout.
Les par 4 drivables en 1, c'est totalement nouveau. Ça n'existait pas en 1990.
Parce que tu tapes pas fort. Parce que,
non, mais ça n'existait pas.
Les par 4 touchables en 1, ça date de mon adolescence. Hein.
Non.
Ça date de mon adolescence.
Non, mais c'est vrai que
partait des jaunes à l'époque.
Il y a au moins, en tout cas pour les gros frappeurs et pour les golfeurs professionnels, sur chaque parcours, il y a au moins un par 4 qui est drivable en 1.
Bien sûr, ça, c'est bien, ce qui est excitant. Et puis pour les gens qui tapent moins fort, c'est cool aussi d'avoir des trous parfois avec un wedge ou un fer neuf en deuxième coup.
Le mot de la fin, Martin Coulon.
Mais c'est étonnant parce que ça me fait penser à une vraie question qui est, c'est quoi un vrai bon show de golf, en tout cas chez les professionnels aujourd'hui? Est-ce que c'est un concours de drive où justement tu vas choper les par 5 et en 2 facile, les par 4 en 1 en gros? Et est-ce que tu peux pas avoir un peu des deux, c'est-à-dire un parcours un peu hybride où tu vas avoir 2-3 trous un peu spectaculaires comme ça, parce que ça plaît de voir des mecs qui tapent beaucoup plus fort que nous, avec plus ou moins le même matos, plus ou moins la même balle, etc. Tu peux te comparer, cet effet de comparaison qui n'est pas anodin. Et d'un autre côté, voir ces gars-là de temps en temps sur certains trous ou sur certaines semaines, en grande difficulté.
Mais oui,
moi j'adore l'US Open.
On le voit plus.
C'est mon côté sadique sûrement.
Moi aussi, j'adore l'US Open.
Bien sûr.
Mais là, tu vois. La performance, elle est banalisée de nos jours.
Là,
tu vois. Un petit qui ramène moins 25.
Mais
bien
sûr. Mais vous êtes sur une autre planète.
Mais pas du tout.
Trouve-moi
la distinction.
Trouve-moi un
US Open
moyen. Trouve-moi un US Open, je te mets au défi de me trouver un US Open.
Fabien, l'US Open fait exception parce que c'est l'USGA
qui confirme
c'est
la règle.
L'USGA qui gère l'organisation.
Le choix du parcours.
Et ils aiment beaucoup mettre les pros en difficulté. À part l'US Open qui est très particulier. Tu regardes les autres parcours, il y a beaucoup de coups de wedge, beaucoup trop de coups de wedge.
Mais
c'est quand même.
Mais il y a beaucoup de
emmerdant.
Non mais pardon.
Mais c'est vrai.
Il y a beaucoup de coups de wedge pour eux. Et à la fin,
je parle haut niveau.
À la fin, il y en a toujours une ou un qui gagne. Donc ça veut dire que t'en as 143 autres qui n'ont pas réussi à mettre les coups de wedge, les putts et les drogues où il fallait.
Ok, on va pas vous rassembler sur ce débat comme d'habitude, mais c'est l'essence même de cette émission, le Practice RMC. On va passer à autre chose avec l'édito de Simon Dutin.
Le Practice RMC.
Depuis combien de temps jouez-vous au golf?
Tom Tom, ça fait vraiment depuis des années.
Et sur un parcours comme ça, depuis quand?
J'ai 10 minutes.
Le 19e trou.
Et forcément, dans quelques jours, il y a l'édition 2024 du Masters d'Augusta. L'occasion pour Simon de nous raconter les plus belles histoires. Certains sont restés dans les mémoires pour des raisons différentes.
Oui, alors on ne va pas pouvoir évoquer toutes ces éditions. Hein. Je ne suis pas payé à la minute, mais oui, Jean-Christophe, il y a celles qui ont marqué l'histoire du jeu, car elles ont sacré un champion d'exception, récompensé une bataille d'anthologie ou offert à un joueur moyen une ligne en or sur un palmarès par ailleurs quelconque. Et puis, il y a les moments fondateurs d'une histoire dont quelques lignes s'écriront encore en 2024.
Oh putain, c'est beau.
Je suis sûr qu'autour de cette table, peut-être...
C'est tellement beau.
Je suis sûr, donc, qu'autour de cette table, peut-être à part Ramuncho, qui a assisté à toutes les éditions depuis la création du tournoi en 1934, tout le monde s'accordera à dire que la plus mémorable des victoires à Augusta restera la première de Tiger Woods en 1997.
There it is, a win for the ages.
À 21 ans, 3 mois et 14 jours, le jeune félidé devient avec style le plus précoce vainqueur de l'histoire du tournoi des maîtres, record qu'il conserve 27 ans plus tard. Avec style, disais-je, car avec un score total de 270, il devance Tom Kite, le deuxième, de 12 coups, finissant la semaine à moins 18, deuxième plus gros affront fait au parcours géorgien, deuxième, car c'est Dustin Johnson qui détient désormais le record.
C'est honteux !
Ouais, je sais, je suis d'accord, mais bon, moins 20 total tout de même lors de sa victoire en 2020, dommage, personne ne s'en souvient, bon, à part Ramuncho, évidemment. Dans les stats qui font mal à l'oncle Sam, le record du parcours co-détenu par un Sud-Africain et un Australien. Nick Price et Jack Nick Price et Greg Norman, pardonnez-moi, 63, soit moins 9 sur ce par 72 rallongé depuis pour se défendre, on en parlait, face à des joueurs qui cognent de plus en plus loin, même si ces deux-là secouaient déjà bien la petite balle. Avant le Tigre, le DJ et Jordan Spieth, moins 18 total lui aussi en 2015, c'est Jack Nicklaus qui a longtemps détenu ce record avec un moins 17 lors de sa victoire en 1965.
C'est du brutal.
Le Golden Bear remportait cette année-là le deuxième de ses 6 Masters avec 9 coups d'avance, ce qui fera dire à Bobby Jones, cofondateur du tournoi, ce type joue à un jeu que je ne connais pas. Un peu comme moi et JC lorsqu'on jouait avec nos copains du practice. En matière d'histoire du jeu de golf, comme dirait un vieux copain, force est de constater qu'un tigre peut se tailler la part du lion puisque Woods a parsemé de ses exploits la légende du Masters.
Well, here it comes. Oh my goodness!
Un type d'anthologie au 16 dont le green ferait même peur à des skateurs professionnels, la balle qui meurt dans le trou et Red Tiger qui remporte en 2005 un quatrième Masters. Ah bon ? Non ? On me dit dans l'oreillette que non. Ah oui, c'est vrai. Deux vilains bogeys au 17 et au 18 et le Tigre est bon pour un playoff face à Chris DiMarco.
Bonjour monsieur. Mais qui êtes-vous ?
Personne, un emmerdeur, un empêcheur de régner en rond qui va obliger le patron à rentrer un putt de 5 mètres pour birdie sur le 18 et remettre les compteurs à l'heure. Ça fait alors 9 grands chelems pour le carnassier. Quant à Chris DiMarco...
Merci à vous d'être venu.
Oui, merci vieux. Au moins, t'as de la place sur la cheminée puisqu'un an plus tard, tu finiras deuxième du British derrière Tiger, of course.
À vous qui a de quoi se la prendre, se la mordre.
Pour en finir avec le Tigre à Augusta... Comment ne pas évoquer sa dernière victoire en 2019, la cinquième en Géorgie, 22 ans après la première. Fabien en chiale encore, Ramuncho était là, encore. Et avec eux, Martin, JC et Médéric, bah une victoire du Tigre, eux, ils y croient encore. Ne vous en déplaise à vous et aux zoologistes, parmi les vainqueurs à Augusta, il n'y a pas que des tigres, des ours ou des requins. Ah non, pas les requins. Bon, pas que des animaux. Quelques moments d'histoire et chiffres pêle-mêle. 13, comme le triste record conservé depuis 44 ans par le regretté Tom Waitzkopf, l'Américain qui tape 5 balles dans l'eau sur le par 3 du 12. Un décuple bogey grâce à son 6e shot sur le green et ses 2 putts. Tout cela sous les yeux de sa femme, en pleurs, qu'un ami à elle tente de réconforter en lui demandant si son mari joue avec ses fameuses nouvelles balles. Plus proche de nous, toujours dans la section carnage, le drive de Rory au départ du 10 lors du dernier tour de l'édition 2011. Le début de la fin du début d'une carrière prometteuse, on ne s'y trompait pas, sauf que bah, c'était pas encore le tour du Nord-Irlande. Triple bogey et double, on en parlait récemment, et c'est Charles Schwartzel qui lui chaparde le bol de punch et la veste verte au clubhouse. Dans le genre historique, n'oublions pas la victoire de ce bon Danny Willett, l'anglais, en 2016, qui compte parmi les plus inattendus de l'histoire du Masters. Ça vaudrait presque la victoire de Larry Mize en 1987. Même l'Américain se demande ce qu'il fout en playoff face à Ballesteros et Greg Norman. CV est éliminé après le premier trou et Mize boite une approche de 50 mètres pour écœurer l'Australien au deuxième. On avait dit pas les requins, n'est-ce pas, Sir Nick Faldo, qui en 96 s'élance le dimanche avec 6 coups de retard sur le White Shark, leader, 1,67 plus tard, et l'Anglais remporte son 3e Masters. Le premier pour l'Anglais, et lui aussi un moment d'histoire, enfin surtout pour lui, et l'infortuné Scott Hoche, qui perd en play-off en ratant un putt de 60 cm qui lui aurait assuré la veste verte. 1961, 1980, 2000, 2009 et enfin 2021 sont elles aussi des éditions historiques puisque ces années correspondent à la première victoire d'un joueur de son continent. Dans l'ordre, Gary Player, le Sud-Africain, Ballesteros, l'Espagnol, Vijay Singh, le Fidjien, Angel Cabrera, l'Argentin et Hideki Matsuyama, le Japonais, dont le caddie aura permis de prendre l'une des plus belles photos de l'histoire du tournoi lorsqu'il va décrocher le drapeau du 18 et s'incliner sur le green pour témoigner son respect après la victoire de son champion. Du coup, cette question pour vous, les copains, l'Irlande du Nord, c'est sur quel continent ?
Merci beaucoup, Simon Dutin. On attend ou pas, mais moi, je dois avouer que je l'attends, la victoire de Rory McIlroy un jour au Masters d'Augusta. Mais on en a suffisamment parlé. Juste vous poser deux questions. Déjà, la première, c'est quoi pour vous la plus belle édition du Masters en tant que sensation, hein, en tant qu'amoureux de golf, Fabien, la plus belle édition ?
C'est Jack Nicklaus. En 86 de mémoire, et ouais, ça reste un moment hallucinant pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'il est revenu et il a fait 6 derniers trous d'une autre planète et il avait un putter. On parlait de matériel. C'était une marmite, le truc. Et j'ai ce souvenir, évidemment, tout ce que tu as dit, parce que pour moi, le Master est extraordinaire.
Ok, une autre édition à nous proposer, Martin ?
Je ne vais pas être très original, ça va être 2019 pour moi, étonnamment, parce que 97, pour moi, c'est assez fondateur en tant que fan de golf tout court et de golfeur tout court, mais 2019, c'était une sorte de... On boucle la boucle. La victoire de Tiger, évidemment, la dernière, enfin, pour l'instant, la dernière, a priori, la dernière. Et le fait, évidemment, d'avoir été là-bas, ça a rendu la chose encore plus dingue, et moi, c'était vraiment une espèce de boucle qui se bouclait. Tu faisais l'espèce de parallèle, une espèce de boucle spatio-temporelle. Il y a eu beaucoup d'émotions globalement dans cette édition-là, pour moi et puis pour beaucoup de gens qui étaient sur place, mais celle-là, elle était vraiment très très spéciale.
François, ton petit coup de cœur ?
Encore une victoire de Tiger Woods, celle de 2001 quand il fait le Tiger Slam. Voilà, en remportant le Masters à Augusta, il boucle la boucle.
Ramucho ?
Alors, pour corroborer les propos de Simon, effectivement, je reviens dans le temps, c'est toutes les victoires européennes dans les années 80-90 qui stigmatisaient le pouvoir que prenait le golf européen, surtout à Augusta, puisque Augusta, c'était un parcours calibré, c'est toujours un parcours calibré américain, etc. Et là, effectivement, avec une victoire de Woosnam, Langer, Ballesteros, évidemment, Ola Sabal, effectivement, ces années-là ont permis au golf européen de décoller et de prendre progressivement le dessus sur... les Américains.
Médéric, une édition particulière ?
Ouais, rien de très fun pour moi, mais la toute première victoire de Tiger, bien évidemment, moi j'étais tout jeune à l'époque, et je pense que c'est ce qui a fait que j'ai accroché encore plus pour ce jeu, donc c'était assez incroyable, 97.
Alors, je vais vous demander de vous mouiller, parce que le Masters, je dirais, j'ai pas une culture golfique immense, tu le sais, j'ai commencé ce jeu il y a 5 ans, malheureusement, à chaque fois je me plains, mais c'est comme ça, c'est la vie, on peut pas revenir en arrière. Et donc, je l'ai découvert et je l'ai vu à la télé très tardivement. Et je pense évidemment que 2019 était incroyable. D'ailleurs, une petite anecdote là-dessus, c'est que je suis les 3 premiers jours à fond, je suis tout le temps devant ma télé, je trouve ça exceptionnel, incroyable. Je me dis, mais comment j'ai pu rater ce jeu ? Comment j'ai pu rater ce tournoi pendant autant de temps ? Et puis je sais qu'au boulot, personne ne m'en parle du golf, je suis tranquille. J'ai l'émission à 19h le dimanche soir. Normalement, je suis tranquille, quoi. Et donc, le dimanche, je m'étais préparé, vu que j'ai une longue journée de travail, à tout enregistrer. Je veux rien savoir. Je veux rentrer dans ma bulle et je veux me taper le match toute la nuit. Et sauf qu'à un moment donné, à 18h, j'ai mon boss qui m'appelle, qui me dit, il va falloir quand même parler de Tiger Woods, quoi. Et donc là, j'ai été spoilé. Et surtout, j'ai dû me taper le tournoi, le voir sur mon téléphone comme ça à la fin de tournoi. Et j'ai trouvé ça horrible en ayant vu autant de belles choses durant les 3 premiers jours. Et le 4e tour, je l'ai mal vécu, malheureusement, même si c'était un moment particulier. Donc voilà, ça serait plutôt 2019. Maintenant, je vais vous demander de vous mouiller parce que l'édition 2024, c'est dans quelques jours. On va faire partir un petit bed et il me faut un nom. Celui qui, pour vous, va remporter le Master. Celui qui me donnera le bon nom. Je lui ferai une belle récompense. Un beau cadeau, les copains. Un beau restaurant. Ok, avec moi, si ça lui tente. Sinon, ce serait quelqu'un d'autre. Un nom. Un seul. Simon Tutin.
Xander Schauffele.
Ça, c'est la grosse cote. Hein. Fabien Denoyan.
Tiger Woods.
Enfin, je vais remettre la musique du cirque de tout à l'heure.
Franchement, j'espère
alors,
que tu
as... Alors, si tu mets 5 secondes...
On laisse la musique et t'as...
Non, 5 secondes. Je le dis, c'est moi seulement. J'étais un des rares, en tout cas dans mon entourage golfique, à prédire qu'il regagnerait en tournoi et qu'il regagnerait. Et tout le monde se foutait de ma gueule. Sauf que quand il a gagné la finale de la FedEx et qu'il a planté le Masters l'année d'après, ça rigolait moins.
Non mais
donc,
Fabien.
Tiger Woods.
Fabien,
Tiger Woods.
On ne te demande pas s'il va passer le premier tour.
Là tu parles de Rory okay. McIlroy.
Je sens que le débrief va être magnifique en tout cas. Médéric Coquer, un nom.
Ben moi, je pense à un joueur du Liv. Je vois bien Yon Ram gagner cette édition.
Ram, parfait. Martin Coulon.
Scotty, non, je déconne. Rory McIlroy, évidemment, bande d'andouilles. Qui d'autre ?
Rory McIlroy, qui d'autre ?
C'est une plus grosse cote que la mienne. Hein.
Mais oui, je sais.
Non, je suis sûr que dans les cotes, Tiger Woods est bien plus élevé que Rory McIlroy. Ça, c'est sûr, de la part de nos amis bookmakers. Ramucho Artola.
Vous le savez très bien, je vais suivre monsieur Coulon. Rory, évidemment, c'est la seule levée du Grand Chelem qui lui manque. Et je pense que cette année, Augusta ne va pas lui résister.
Si Rory, comme tous les ans, quoi. Si Rory plante Augusta, on va se régaler pour débriefer ce
ouais,
podcast.
Je te confirme.
Ce sera le lundi 15 avril. François Simeka, on vote pour qui ?
Moi, je vois bien un dernier tour. Patrick Cantlay, Rory McIlroy, on va se régaler. Mais je pense que Patrick Cantlay a plus le jeu pour s'imposer.
Ok, voilà, on vérifiera tout ça lundi prochain.
On a tous donné notre pronostic, alors qu'en fait, on sait que c'est Scottie Scheffler qui va gagner.
Non, on est tous pour Rory, on est tous pour Rory. Oui, c'est vrai qu'il y a Scottie Scheffler, évidemment, qui sera.
Mais personne n'a donné Scottie Scheffler. C'est assez marrant.
J'ai hésité un peu quand même.
Vous avez voulu innover et vous avez bien raison, les copains. Allez, à chaque épisode, on file au practice.
Le practice RMC.
Je vous conseille, ça ne visait pas à gauche du drapeau, parce qu'il y a tous les bacs à sable devant. Ou bien, ouais, c'est ça que j'ai. Voilà, elle part bien. Bien joué. Super.
Le tips de Ramucho.
La leçon du jour avec notre prof Ramucho Artola. Chaque épisode, vous le savez, on s'installe au tapis tranquillement avec lui. Les oiseaux chantent, on a envie de jouer au golf. Vous avez un problème, vous nous contactez et Ramucho est là pour vous aider. On va accueillir Valentin. Bonjour Valentin.
Salut JC, salut la team.
Salut Valentin.
Bonjour Valentin. Alors Valentin, Ramucho est avec toi. Vas-y, expose-lui ton problème ou peut-être pas d'ailleurs un problème, mais en tout cas ta question.
En effet, c'est plutôt une question qu'un problème. Moi, j'ai mes enfants qui voulaient faire comme papa, donc ils se sont mis au golf, ça fait à peu près 2 ans. Ils ont 6 et 8 ans, ils ont déjà un joli petit swing, ils envoient un petit peu la balle. Mais quand on va sur le tapis, moi, je me retrouve un peu dépourvu, parce que à part taper des balles, entre guillemets, dans le vent, je me retrouve un peu sans idée pour trouver des jeux, des petites choses un peu plus ludiques à leur faire faire. Donc voilà, j'ai besoin de ton coup de main, Ramucho.
Très bien Valentin, écoute, je vais essayer de te proposer quelques petits exercices pour tes enfants, pour avant tout qu'ils, comme tu le réclames évidemment, hein, qu'ils s'amusent et qu'ils développent leur motricité, leur équilibre, leur vitesse par le jeu, surtout par le jeu. Avant tout, tu vas devoir avoir une cible, un objectif bien concret, autre qu'un drapeau ou qu'un trou de golf qui ne peut pas forcément parler à des jeunes enfants. Donc le premier petit jeu que je te propose, ça s'appelle, on l'appelle le chamboule-tout. Donc c'est un exercice de lancer. Tu auras besoin de 6 sauts de practice et d'une balle en mousse ou d'une balle de tennis. Tu poses les 3 sauts au sol, les 2 sur les autres et ça va former une pyramide. Donc tu placeras tes enfants à une dizaine de mètres de la pyramide. Et face à cette pyramide, ils vont lancer soit à la main d'abord ou après avec un petit club de golf en essayant de dégommer le maximum de sauts de la pyramide. Voilà, donc l'objectif recherché, l'amusement bien sûr, mais le travail du lancer vers une cible. Voilà pour le premier. On va quand même parler du putting, ce serait pas mal aussi, ça va les calmer un tout petit peu. Donc on va faire une sorte de puissance 4, je ne sais pas si tu te souviens du jeu. Donc tu vas utiliser une douzaine de tees, peut-être 12 tees, ou des puces que tu placeras au sol, de telle sorte que cela va former un quadrillage. Et ce quadrillage, enfin ces carrés vont avoir l'espace d'une taille d'un peu plus d'une balle, de telle sorte que tes enfants puissent avec le putter venir les y loger. Voilà, donc tu fais putter tes enfants avec pour objectif de remplir un maximum de cases.
Tu te mets à combien de mètres à peu près ?
Tu te mets d'abord, tu varies les distances. Tu peux commencer à 1 mètre, après tu augmentes, etc. Avec des points que tu peux adapter également, avec des points et des défis qui montent en puissance, c'est le cas de le dire. Ensuite, on va se défouler. Hein, il en faut aussi pour les enfants. Donc, par contre, avec toujours une balle sur tee, tu vas leur proposer, alors soit sur une jambe, soit pieds joints, soit les pieds très écartés, de taper le plus fort et le plus vite possible en variant de situation, que ce soit avec un fer ou avec un bois, alors même un peu en pente éventuellement. Voilà, donc là, l'objectif recherché, c'est de défouler, mais surtout de travailler l'équilibre et la vitesse. Et puis, un petit dernier, un espèce de petit slalom que je peux te proposer avec... tu constitues un petit circuit avec 4 sauts de practice, 4, 5, 6 sauts maximum. Tu as créé un circuit dans lequel tu feras slalomer tes enfants façon hockey sur gazon, hockey sur glace. Et là, par contre, tu vas faire intervenir le chrono. Et le vainqueur, c'est celui qui a fait le plus grand de circuit avec un chrono le plus bas possible. Donc, toujours pareil, de la vitesse qui est recherchée, de la synchronisation. Et puis, tu pourras même éventuellement rajouter un petit défi lorsque le vainqueur n'aura pas été dans les temps. Voilà, tu le fais circuler à pied joint, etc. Enfin, je te fais confiance. Mais tout ça, c'est pour que tes enfants s'amusent tout en apprenant, évidemment. Et ben, on en est là, hein, tous pour amuser les enfants et les faire progresser.
Voilà, je suis tout oui, ouais, parce que j'ai aussi, non pas ce problème, mais j'ai aussi des enfants que j'essaye de mettre au golf qui sont petits. Ils ont quel âge, toi, Valentin ?
Ils ont 6 ans et 8 ans.
6 ans et 8 ans. Oui, bon, on est à peu près dans le même état d'esprit. Il y a Fabien qui veut rajouter quelque chose. Et évidemment, Valentin, tu pourras nous donner un commentaire.
Alors, je souscris évidemment à 3 milliards de pourcents sur ce que vient de dire Ramucho. Mais moi, je t'invite avec tes enfants à aller sur le parcours, Valentin. Alors, je ne sais pas si tu es membre, abonné quelque part, mais une fois que tu auras fait, à la limite, sous échauffement, enfin, en forme d'échauffement sur tous les exercices que tu as donné Ramucho, mais un enfant, il y a deux choses qui l'éclatent, c'est jouer sur le parcours et faire de la voiturette.
Ah, ça, je suis là. Alors ça, je souscris parce que j'emmène toujours mes enfants dans la voiturette.
Ça, c'est vrai. Et donc, vraiment, fais ça parce que le golf, ça reste sur le parcours. La voiturette, c'est quand même ultra cool pour les mômes. Aujourd'hui, tu peux jouer en scramble avec eux, tu peux les faire partir devant. Enfin, il y a tout un concept où là, les enfants vont vouloir revenir parce qu'ils se seront amusés aux practices avec les exercices de Ramucho et ils seront allés sur le parcours qui est la cerise sur le gâteau.
Totalement d'accord avec toi. À chaque fois que je vais jouer, je prends la voiturette, je prends les enfants et c'est vrai que la première question qu'ils me posent, c'est « Ah, tu vas jouer au golf, tu prends la voiturette ?» Et si je prends la voiturette, alors là, c'est sûr, elles viennent. Et même si elles tapent... Allez, 6, 7 coups, 8 coups, et qu'elles ne font pas les trous en intégralité, parce que moi, elles sont encore un peu plus petites que toi, Valentin. Mais ça les... Et puis au moins, tu fais découvrir l'environnement. Vas-y, Valentin, dis-nous.
Non, mais j'acquiesce tout à fait. C'est vrai que je n'ai pas forcément le réflexe de les emmener sur le parcours. Peut-être pour pas trop gêner d'autres membres ou les autres joueurs, alors que c'est tout à fait ridicule a priori.
Oui, et puis en plus,
je vais vraiment prendre ça en compte et en effet aller sur le parcours, faire un trou ou deux, ce sera chouette.
Tu peux prendre un départ adapté, moi souvent c'est ce que je fais, je le prends plutôt fin d'après-midi, là où il y a moins de monde, là où il y a les moins golfeurs, les plus chevronnés qui viennent le matin.
Moins chiants, tu veux dire.
Non, mais ceux qui jouent pour scorer, pour performer, là tu viens en fin d'après-midi, tu sais que t'as pas grand monde derrière et que t'embêtes personne. En fait, moi, c'est souvent ce que je fais. Oui, Martin.
Ouais, par rapport à cette notion de parcours, je suis un peu comme toi, JC. Moi, j'ai à peu près les enfants comme Valentin, exactement le même âge. Il y a des parcours qui sont adaptés vraiment aux gamins. C'est des petits parcours de 3, 6, voire parfois 9 trous. Il y a plein de petits compacts urbains, des petits trous hyper sympas où nous, en tant que golfeurs aguerris, on arrive juste avec deux wedges et les gamins, eux, ils arrivent avec leur petit sac. Et puis c'est là que ça se passe, en fait, le golf. Moi, je surplussois ce que vient de dire Fabien. C'est là où il faut les emmener, les enfants, parce que c'est là où le premier birdie de ton enfant, c'est génial à voir et il s'éclate pour de vrai. Ça saute dans tous les sens, c'est n'importe quoi, mais c'est ça qui est cool. Absolument. Ouais,
le problème, c'est que les enfants vont faire plus de birdies que papa après. Donc.
Justement, c'est pas grave, c'est bien.
Le but, tant mieux, comme ça tu vas les intéresser. Comme ça, après, quand tu partiras en vacances, eh bien, à chaque fois tu prévoiras de prendre un hôtel juste à côté d'un golf et t'emmènes toute la famille. Et ça, c'est mon rêve évidemment absolu.
Moi, je pense à mon père qui a jamais assisté à un birdie de son fils.
Et pourtant, t'en as fait. Hein.
C'est parce que t'en as jamais vu.
Non, je blague parce que je l'ai déjà vu en faire. C'est juste pour le bonbon. Valentin, t'as tout avec toi, donc tu peux les emmener sur le parcours, t'as les exercices de Ramucho. Bref, tu peux t'éclater et tu nous rappelles, évidemment, dès que tu as besoin. Merci, Valentin.
Avec plaisir, les gars. Bonne journée. Merci.
Allez, à bientôt sur RMC dans le podcast. Un petit mot sur Golf Planet avec notre invité, François Simeka. Les prochains articles qui vont paraître là dans quelques jours, j'imagine que vous allez être focus. Augusta, tu y vas d'ailleurs ?
Alors, moi, je n'y vais pas. J'y suis allé déjà pas mal de fois par le passé. C'est Lionel V, mon collaborateur, notre rédacteur en chef adjoint qui y va. On a la grande chance d'avoir une accréditation depuis 3 ans maintenant. Donc, on est ravis de pouvoir aller à Augusta, c'est un lieu mythique et ça nous donne à chaque fois des frissons. Je me rappelle la toute première fois quand j'y suis allé, j'avais les poils dressés sur le bras, c'était inoubliable. Et on va suivre évidemment l'Augusta. Augusta, c'est le tournoi qui lance véritablement la saison des majeurs, donc on va être à fond sur ce qui va se passer en Géorgie dans quelques jours maintenant. Et puis après, on a toute l'actualité autour de la guerre des circuits, de la distance, de tout ça, on suit avidement évidemment.
Bon, eh ben en tout cas, merci d'être venu avec nous. C'est pas encore terminé cette émission.
On peut quand même rappeler à nos auditeurs qui ne connaîtraient pas Golf Planet que pour ceux qui cherchent par différents moyens à s'informer sur le golf sur Internet, Golf Planet a pris une place qui était nécessaire parce que en termes de réactivité, de variété d'articles et de suivi de l'actu, ça manquait quand même pas mal dans le paysage média.
Tu me donneras ton rib, Simon.
Il n'y a pas de problème, On attend l'article sur le podcast déjà et puis... non, c'est ça, en vrai, c'est... tout à fait sincère.
Mais je suis totalement d'accord parce que même moi qui ne suis pas beaucoup le golf, en tout cas comme vous, quand on veut se renseigner, je trouve que Golf Planet, c'est une parfaite illustration. Oui, Fabien.
Ouais, je vais corroborer évidemment ce que vous venez de dire. Ouais, un grand bravo parce que c'est effectivement passionnant et je dois avouer, moi, d'une part, je regarde très souvent quand je n'ai pas la possibilité de regarder les tournois, ce qui est rare. D'autre part, on incite, nous, nos 200 enseignants et nos collaborateurs à aller voir, parce que c'est hyper important de savoir ce qui se passe tant sur les parcours que en dehors des parcours. Voilà. Et donc, il y a deux grands médias aujourd'hui, Golf Planet et le Practice sur RMC.
C'est bravo, exactement. Très bien. Tout le monde est content.
Merci
tout ça,
de m'avoir accueilli.
Le tirage avec grand plaisir. 5 ans. Donc, bon anniversaire à Golf Planet. Un cadeau exceptionnel à vous offrir, comme à chaque épisode, pour débuter le golf aujourd'hui. Mais vous pouvez l'offrir, évidemment, à un débutant, à quelqu'un qui a envie de s'y mettre avec vous. Vous pouvez remporter, c'est un magnifique cadeau, un pack All For You avec Blue Green et U-Golf, qui comprend un an d'enseignement avec des cours illimités, un an d'accès illimité, un certain nombre de parcours et le matériel fourni durant cette année de golf. Valeur du pack All For You, plus de 1 000 euros. C'est très simple. Vous envoyez golf au 732-16, golf au 732-16, et vous pouvez débuter le golf tranquillement et on vous accompagne. Évidemment, c'est notre mission dans ce podcast. Pour terminer le Practice RMC, on va se détendre un peu avec notre invité.
Le Practice RMC Clubhouse.
Le Clubhouse avec François Simeka. Question courte, réponse courte. Jurez-vous de dire toute la vérité, rien que la vérité, François ?
Absolument, je le jure.
Le meilleur score de ta vie ?
74.
C'est bien ça. C'était où ?
C'est pas mal. À Lille-Adam, je crois. Et puis je l'ai refait à Chantilly.
Ta distance au drive ?
225 mètres. J'écrase pas les Gervais, non.
Faut jouer avec quoi bien pour ça ? Ton club préféré ?
Le wedge. J'aime bien les wedges, j'aime bien les sand wedges.
Ton club détesté maintenant ?
Tout ce qui est fer un peu fermé, dès que ça commence à descendre sous le fer 5, ça devient compliqué.
Ok, dans ce cas-là, tu prends un bois ?
Non, pas trop, non, je suis pas fan non plus des petites têtes là, mais j'essaye de progresser. Je prends des cours avec Ramon Show.
Ton parcours préféré ?
Mon parcours préféré ou le parcours que je rêve de jouer ?
Ah, d'abord ton parcours préféré ?
Ah, mon parcours préféré, c'est les S, à côté d'Orléans. J'adore les S, je suis fan et j'ai été membre et je le suis plus, mais j'adore ce parcours, j'adore cet endroit.
Et maintenant, le parcours que tu rêves de faire ?
Royal County Down, en Irlande.
Pourquoi ?
Ah, c'est sublime, toutes les photos que je vois, je me dis, mais de combien de temps je vais devoir encore attendre pour jouer ce parcours ?
Bah, il faut y aller.
Ouais, il faut y aller. Non, mais c'est pas facile de rentrer sur ces tracés-là.
C'est une première, hein, dans le...
Bah, souvent, tout le monde dit Augusta.
Mais Augusta, je l'ai joué. Malheureusement, je suis désolé. Martin l'a joué.
Excusez-nous. Il y a deux boss dans le game, tu vois. Et puis,
il y a 4 blaireaux.
T'as fait combien, Augusta ?
Ouais, je crois que je me suis même pas souvenu de mon score. Je crois que j'ai très bien joué à l'aller, alors je partais du 10 parce que ils font partir du 10 et du 1. J'ai très bien joué à l'aller, au retour j'ai totalement explosé sur les greens, c'est n'importe quoi les greens. Hein. Vraiment, on se rend pas compte. Hein. Les difficultés, la taille des greens, dès qu'on est du mauvais côté, c'est 3 putts assurés. J'ai dû faire aller 87, 8, 9, 10, je sais plus.
Et tout le monde nous dit que c'est un véritable toboggan quand on est là-bas. C'est
ouais, à l'aller, en partant. Alors on part des boules avancées, hein, et à l'aller, donc du 10, je crois que j'ai joué plus 4, je suis passé en 40 je crois et après j'ai complètement explosé sur le retour.
On a juste envie de savoir, tu fais quoi au 12 ?
Au 12 je fais le par et je fais birdie au 13.
Magnifique.
Ouais.
Ça ce sont les souvenirs.
C'est un grand souvenir Augusta. Je vous dis, la première fois que j'y suis allé c'est en 2003, j'arrive au practice, je vois Mickelson, on est lundi matin parce que ça faisait une semaine que j'étais dans la région et que je voulais être là et j'ai les poils qui se dressent mais moi-même ça m'a surpris. J'étais là, j'étais dans le lieu de mes rêves qui m'a fait tomber amoureux de ce jeu. J'ai écouté André-Jean Laforie et Bernard Pascasio dans les années 85-86, quand Niklos a gagné. Et là, voilà, je suis tombé amoureux de ce sport comme ça.
Ton idole au golf ?
Mon idole au golf, je vais pas être très original, Tiger Woods.
Ton plus gros craquage ?
Contre des Italiens, une fois en compétition, le mec m'avait accusé d'avoir posé une balle sur l'autre fairway alors que j'avais fait un gros hook et que, oui, la chance avait fait que j'avais retrouvé ma balle en plein milieu de l'autre fairway à côté. Il pensait que j'avais posé une balle et donc là, j'ai pété un plomb, ouais.
Le plus beau coup de ta vie, pour terminer ?
Le plus beau coup de ma vie, c'est un trou en un, évidemment. Je suis pas très original non plus. C'est à Chantilly, dans le nouveau tracé. Maintenant, ils ont refait le trou numéro 11. Et donc, j'ai mis un coup de fer 8 qui a terminé au fond du trou. Et j'étais comme un dingue. Ouais.
C'était il y a longtemps ?
C'était il y a 4-5 ans, je crois, maintenant, ouais. Ouais, ouais.
Un bel ace pour terminer. Voilà, merci beaucoup. Merci François Simeka d'avoir été notre invité dans cet épisode 10 du Practice RMC. Simon, Fabien,
merci à vous,
Ramoucho,
de m'avoir
Martin, Médéric. Merci à vous les copains, rendez-vous
merci les gars,
pour l'épisode 11
merci
qui sortira. Il nous l'avait promis,
il
le réserve pour la fin. Une imitation sans pareil de Fabien Denoyant. On est là lundi prochain, lundi 15 avril. Nous allons débriefer le Masters d'Augusta évidemment. Et on va se régaler. Allez, bon golf à tous. Et comme dirait Arthur Daley, le golf est une affaire de cœur. Si vous ne le prenez pas au sérieux, il ne sera pas amusant. Si vous le faites, bah, il vous brisera le cœur.
Le Practice RMC.